Pourtant, il n'y a pas de raison de douter. Tout le monde aime les gâteaux. Tout le monde aime les gâteaux. Tout le monde aime les gâteaux.
Oh oui.
Mais je doute de moi.
Tu es ma meilleure amie. Est-ce que tu es vraiment ma meilleure amie?
Je dois aller à la police. Car j'ai des problèmes.
Salut!
Vous êtes prêtes? Alors à partir de maintenant, tous les quatrièmes samedis du mois, de 15h à 16h sur les ondes de Radio Campus Tour, c'est des meufs qui prennent l'antenne.
Nous sommes un collectif radio de meufs féministes de Tours.
Ce qui nous rassemble, c'est un fort désir de faire de la radio et d'en faire un outil de partage d'expériences collectives et individuelles.
Parce que pour nous, l'intime est politique.
Dans un univers médiatique majoritairement masculin, notre ambition est de prendre la parole et de visibiliser nos points de vue féministes.
Nous avons également envie de permettre à d'autres meufs de prendre la parole, à travers des témoignages, des invitations, des reportages de rue, des chroniques musicales.
Par une approche féministe, nous traiterons de thématiques qui nous animent, qui nous questionnent, qui nous révoltent.
En bref, on veut abattre le patriarcat, le dénoncer. Nous sommes nombreuses et nous allons faire masse.
L'émancipation, y a rien de plus bon. Bienvenue. On est bien contentes de se retrouver et de vous retrouver pour cette deuxième émission de Détournement féministe. Aujourd'hui, on se cause d'autokill. Tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te tyrannise à longueur de temps, celle qui fait un truc genre...
Sois courageuse, sois créative,
sois belle,
sois drôle,
aie de la conversation,
sois autonome,
sois libre,
aie du répondante,
sois sexy,
mais sois pas une pute,
fais un truc avec tes cheveux,
engage-toi,
réfléchis,
aie de la personnalité,
mais parle
pas trop fort,
si si merde, prends ta place,
assume-toi,
trouve ta voix,
oh là là, fais ta vaisselle,
va à cette réunion,
non, prends soin de toi,
dors,
fais du yoga,
parle,
ne parle pas,
ne sois pas gentille,
exprime tes émotions,
non, ferme-la,
régule tes émotions,
sois spontanée,
reprends la danse,
fais du sport,
mange correctement.
Tu devrais t'épiler.
Non, te libérer ou bien ?
Laisse tes poils.
Assume-toi.
Ah !
Dans nos vies à toutes, existe un dialogue intérieur, des allers-retours entre nous et nous, censé nous aider à nous positionner dans le monde, dans nos relations et à faire nos choix. Ce dialogue est plus ou moins conscient, selon les meufs, mais surtout il est plus ou moins féroce.
Et chez moi, il fut longtemps carrément violent, attaquant, virulent, mortifère, venant constamment m'empêcher, me freiner, me faire douter jusqu'à me faire bien souvent renoncer pour tranquillement parvenir à me faire croire que je venais de faire un choix éclairé et libre.
Gnarc, gnarc, gnarc.
Mesdames, je vous parle évidemment du beau, du grand, du bienheureux salopard, l'autokill.
Et selon les cultures, il revêt d'autres apparences. Le surmoi pour les psychanalystes, le prédateur pour Clarissa Pinkola Esquès, autrice de Femmes qui courent avec les loups, l'intériorisation des normes culturelles pour les sociologues, ou encore l'intériorisation de la culture de domination patriarcale pour les sociologues féministes.
Pour moi, c'est l'autokill, raclure parmi les raclures, drôle de chimère terrifiante, à dompter et à apprivoiser.
Lourde tâche pour les guerrières d'entre nous qui n'avons pas d'autre choix que de nous y coller.
L'autokill est un mécanisme interne d'autodénigrement, parfois bien difficile à identifier étant donné qu'au fil du temps, on lui a offert quelques belles couvertures telles que la timidité, la pudeur, la discrétion, la retenue.
De bien jolis mots pour évoquer tant de violences et d'entraves.
Les théories psychodynamiques et psychanalytiques énoncent que l'amour que nous éprouvons pour nous-mêmes est étroitement lié à nos expériences d'amour dans notre enfance. Ainsi, d'avoir eu des parents plus ou moins inquiets, plus ou moins premier degré, un tantinet rigide, déprimé, peu engagé affectivement ou trop, nous offre des expériences précoces d'un lien d'amour inquiet, rigide, éteint, dévorant.
Et la répétition de ces expériences soutiendrait l'intériorisation progressive d'un amour à nous-mêmes, de même nature.
Ça, c'est la proposition analytique. Et je dois dire que ça me parle et que j'adhère à cette proposition. Cependant, elle me semble incomplète. Il me semble qu'elle fait l'impasse sur la dimension culturelle de notre construction identitaire et qu'elle cantonne la question de notre émancipation à la sphère privée, dénuée de sa dimension politique et sociale. Cette proposition fait l'impasse sur le fait que je sois une femme, vivant dans une société patriarcale occidentale, ayant été pensée, désirée, aimée, élevée comme telle par des êtres humains eux-mêmes imprégnés de cette culture.
Eh ben oui! Quand depuis ta plus tendre enfance, on ne t'a offert que des jouets qui font pas de bruit, avec lesquels tu te dois de jouer dans ta chambre, sans foutre le bordel partout.
Quand les yeux de l'amour de tes parents étaient plus en lien avec tes tenues, coiffures, belles écritures, bonnes notes, qu'avec tes hauts faits de mini-aventurière de l'extrême.
Quand, depuis que tu portes des robes ridicules, les autres humains autour de toi vantent ta discrétion, ta docilité, ta gentillesse, et te ramassent à chaque fois que tu tentes d'affirmer ta position, de contredire ton cousin ou de manger de la boue.
Quand, depuis que tu vas à l'école, la maîtresse fait comme si elle ne voyait pas ton petit doigt levé et qu'elle interroge Maxime ou Rémi, qu'elle te dit dans la cour « Bah voyons, laisse le ballon au garçon, va plutôt jouer à la marelle ».
Quand ensuite tes profs ne cessent de te faire chier parce que tu n'es pas assez investi à l'oral, et tes potes parce que t'as pas encore de nichon.
Puis ton premier mec parce que lui voudrait bien que tu le chevauches comme une amazone son cheval.
Puis ton boss ou ton médecin qui passe son temps à te couper la parole et qui te parle comme si tu portais toujours des soquettes.
Puis cette pote qui te dit « Vraiment, tu compliques toujours tout ».
Puis ce mec qui te dit « Non mais vraiment, moi je ferais plutôt comme ça hein. » alors que tu lui as rien demandé. Puis celui qui te gueule dessus parce qu'il a pas saisi que s'il est en colère, toi tu fabriques pas les émotions des autres.
Et puis finalement, tu les as vécues tellement de fois, toutes ces situations d'injonction à être comme ceci ou comme cela, dans ta famille, à l'école, avec tes potes, au taf, que d'expérience en expérience, tu as tranquillement mais sûrement intériorisé toutes ces attentes paradoxales comme étant les tiennes vis-à-vis de toi-même.
Bah oui, si mon environnement me contraint, m'empêche, me dévalorise, mais que je n'ai pas les armes pour le saisir et m'en défendre, eh bien j'intériorise cela comme étant la norme.
Ma propre oppression devient donc mon modèle inconscient. Du coup, je m'oppresse moi-même, mais en loose day.
Alors, vous venez d'entendre un texte qui a été écrit par l'une d'entre nous et dont on entendra d'autres extraits au fur et à mesure dans l'émission. Et ce texte a parlé à plusieurs meufs de la radio et on a eu envie de le travailler ensemble. Et ça nous a donné en fait cette idée de faire cette émission sur l'autokill. Alors, pourquoi, justement, on a eu envie de traiter cette question-là? On va en discuter un petit peu. Et comment on a conscientisé qu'on avait affaire à des assignations et des injonctions liées au genre?
Le point de départ de ce texte, c'était vraiment comment pouvait-on penser un peu différemment le rapport qu'on entretient avec soi-même et comment on pouvait sortir un peu de cette représentation privée du travail de l'intime. Et qu'en réintroduisant la pensée sociologique et notamment la pensée féministe, de penser qu'en tant que femme, on appartenait à une classe sociale dominée en évoluant dans une organisation sociale patriarcale, qu'un groupe social dominant pour maintenir sa domination prenait appui sur la construction d'une norme culturelle et pour maintenir cette norme culturelle prenait appui sur un certain nombre d'injonctions culturelles, permettait de penser les choses un peu différemment et par rapport au rapport qu'on entretient intimement avec soi, à la manière dont on se juge, aux injonctions qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, on peut commencer tranquillement à prendre conscience qu'il y a une espèce de résonance troublante entre ce rapport intime qu'on entretient avec soi-même et le rapport qu'une classe sociale dominante entretient avec une classe sociale dominée, en l'occurrence la classe des femmes en ce qui nous concerne, quoi. Et que finalement cette question de la souffrance intime et de ce rapport qu'on entretient avec soi est peut-être pas juste du côté du privé, c'est peut-être pas juste moi qui ai une nature de femme un peu masochiste, c'est peut-être pas juste moi individuellement qui suis en galère, c'est peut-être une question plus large que ça, c'est peut-être une question collective, c'est peut-être une question de classe et du coup c'est peut-être une question politique. Et l'idée c'était vraiment de proposer un texte, des mots pour penser cette question et s'emparer d'une question intime en la politisant.
Alors, est-ce que vous avez des exemples personnels ou pas de ces assignations sur lesquelles vous êtes un peu révoltés ou que vous ont travaillé pas mal dans votre vie? Assignations, injonctions?
Moi, je reviendrai juste avant de répondre à cette question sur pourquoi travailler sur l'autokill, sur ce ce texte-là qui avait été écrit par l'une d'entre nous. C'est simplement parce que, en fait, à un moment donné, quand tu rencontres d'autres meufs avec des difficultés qui te sont propres, enfin, qui te causent, qui sont similaires, il y a quelque chose d'hyper soulageant, très libérateur de se dire « Je suis pas toute seule avec ces galères, en fait. Je suis pas toute seule avec ces galères, et en plus, semblerait-il, ces galères ne concernent pas que ma propre individualité, et il y a des éléments extérieurs à moi qui viennent me dire que... Enfin, qui viennent me dire « Et tel comportement, et tel autre comportement. » Par exemple, au niveau des exemples, comme tu disais, faut sortir le samedi soir. Merde, c'est con, parce que moi, samedi soir, j'ai plutôt envie de mettre mes pantoufles et de me regarder un bon film. Ça veut dire quoi ? Que je suis pas in, que franchement, je fais pas ce qu'il faut pour rencontrer des gens. Et que bah, quand tu rencontres d'autres personnes qui te disent bah, « Non, non, moi, ce soir, je mets mon pyjama, mes pantoufles et... »«
Je traîne sous mon plaid. »
Et ben, tu fais « Ah ouais, toi aussi. » Et du coup, c'est cool, en fait, et ça veut pas dire quoi que ce soit derrière. Il y a... voilà, et ça permet de prendre du recul, en fait, de rencontrer d'autres personnes qui vivent de façon similaire, de prendre du recul et d'avoir d'autres éléments de réflexion. Et comme disait Adèle, de plus être uniquement concentré sur sa propre personnalité, sur quelque chose d'hyper psychologisant. Si tu vis ça difficilement, c'est parce que toi, tu t'ouvres pas aux autres, c'est parce que tu fais pas d'efforts. Non, c'est parce qu'aussi on m'impose des choses qui ne m'appartiennent pas. Et donc, du coup, ça permet de se réapproprier, en fait, son propre fonctionnement. Et de le travailler à plusieurs, ça aide.
Ouais, de faire le ménage tout doucement entre ce qu'on a pu intérioriser comme normal dans la façon de se traiter, là où quand on s'engage dans ce processus de conscientisation qu'on a affaire à un environnement un peu hostile et contraignant, on découvre un peu plus authentiquement petit à petit ce qui n'appartient qu'à nous. Et sur la question que tu posais, comment... On prend conscience et qu'est-ce qu'on a découvert au fur et à mesure. Moi, par exemple, je me souviens d'une lecture qui a été hyper importante pour moi, qui est un bouquin écrit collectivement par des meufs qui bossent dans des scopes d'éducation populaire. Elles ont écrit un bouquin qui s'appelle « Éducation populaire et féminisme ». Et en fait, au centre de ce bouquin, elles ont mis toute la théorie qui supporte leur écrit. Et notamment, je lis un petit extrait d'article sur le travail de conversation des femmes et sur le fait que dans des collectifs mixtes, la parole est moins donnée aux femmes, elles sont plus souvent coupées, leurs propos peuvent être repris. Et c'est la première fois que je saisis que dans un environnement où je suis traversée par des sentiments comme ça un peu violents, dérangeants, où il y a quelque chose qui me chiffonne mais que je ne sais pas trop de quoi il s'agit, là, je trouve des mots pour expliquer l'éprouvé que j'avais et je me rends compte en fait que je suis contrainte, que je suis mise à une place particulière en tant que femme et que ma parole n'est pas libre à la hauteur de ce que je souhaiterais. Ça, c'est un début de processus pour moi de prise de conscience d'injonction qui s'adresse à moi.
En fait, tu voudrais peut-être rajouter quelque chose ici ?
Ça va être un peu long, je crois. Je préfère... Ok, et eh ben en fait, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, c'est pas grave. Du coup, bah voilà, on a fait un petit tour de ce qui nous a amené à traiter de ce sujet. Et comme on disait, on n'est pas toutes seules. Du coup, on a eu envie d'aller voir comment ça se passait pour d'autres meufs, comment ça se passait dans leur vie, comment elles vivaient ce rapport-là et comment elles le pensaient et les trucs qu'elles ont trouvés pour se dégager de cette auto-oppression, on va dire, l'intégration de cette oppression et qu'on s'inflige en fait à nous-mêmes. Et pour ça, on a fait des petites interviews et bah là, du coup, on va vous passer ces morceaux et voilà, ça va nous aider un peu pour construire une propre boîte à outils.
Y a-t-il des domaines de ta vie où tu doutes plus de toi ?
Oui. Vie amoureuse et vie professionnelle. Ma vie, quoi.
Eh bien, en début de vie, je pense que on ne doute pas ou peu. On a des certitudes inculquées par la famille, par l'entourage. Mais on grandit, on vieillit. Et là, arrivent les doutes sur sa façon de penser, de réagir, d'aimer, d'éduquer ses enfants. Donc je pense que le doute, oui, on l'a, je l'ai vu.
Quand il y a des sentiments engagés, que ce soit amoureux ou amicaux, je peux avoir des moments de doute assez forts. Puis ça peut être aussi dans des espaces de relations familiales. En tout cas, des moments de doute qui peuvent me mettre un peu en difficulté ou re-questionner tout, enfin prendre une dimension qui est un peu démesurée.
Tout de suite, j'irai le travail parce que au niveau professionnel, je me sens pas du tout légitime dans mon taf et du coup, j'ai toujours des doutes avec ça, sur ce que je peux ressentir aussi bien des fois, parce que tout n'est pas clair au niveau de mes sensations, émotions. Sinon, je pense aussi que des fois, c'est bien d'avoir des doutes. Ça nous pousse à faire des recherches, à avoir un esprit assez autocritique. Et c'est bien de se dire, bah ouais, on sait pas tout. Du coup, on a des doutes. Et puis, c'est bien aussi de l'exprimer à l'autre, parce qu'on n'est pas toujours un supposé savoir.
Bon, c'est compliqué. C'est vrai que maintenant, arrivé à la maturité, on doute quand même moins de soi. Et par contre, oui, jeune... On doute dans certains domaines. Dans le travail, j'ai rarement douté. C'est vrai, j'étais assez sûre de moi. Dans le couple, bon, c'est compliqué, mais je pense que j'ai quand même été assez sûre de moi aussi. Par contre, dans mes relations, en particulier avec les gens que je connais peu, j'ai toujours été très mal à l'aise. Voilà, et c'est quelque chose que j'ai dû travailler pas mal.
Oui, il y a des domaines... sur lesquels je suis absolument pas sûre de moi, c'est en majorité dans les relations sociales, ou les relations humaines en tout cas.
J'ai toujours eu des doutes sur ce côté études. Je me dis c'est pas fait pour moi, ou... C'est comme un endroit où tu dis bah, cet endroit-là il est pas fait pour toi. C'est un conditionnement peut-être mental, hein. Je sais pas. En fait je suis jamais sûre de moi, hein, dans rien, hein. Il y en a d'autres où j'y vais parce que je me lance à l'eau et puis c'est par une confiance en fait, où je me dis tiens là il y a un défi, j'y vais. Mais il y a d'autres domaines, c'est vraiment du doute figé, c'est-à-dire je n'y vais pas, je n'y crois pas. Quoi. Mais il y a d'autres domaines où je peux me jeter vraiment dans l'inconnu et puis me surprendre moi-même à me dire bah, tiens je me suis adaptée, j'ai compris des choses. Puis il y a d'autres domaines où c'est vraiment impossible. Vraiment un impossible où je n'imagine même pas que c'est possible. Donc ça va au-delà du doute.
Le domaine où j'ai vu dernièrement que j'ai doute, plus que d'autres, c'est les domaines du travail. Surtout lorsque j'ai besoin de me présenter pour un entretien. C'est comme si je souffre de la syndrome de l'imposteur, je pense, s'appelle. Du coup, je suis motivée, je sais que je peux le faire, j'ai les capacités. Je trouve que ma personne s'est construite de sorte que je pourrais tout à fait répondre à un certain poste. Et quand je suis en fait face à quelqu'un qui me juge, je trouve très difficile de maintenir cette sécurité, cette position de où je crois à mes capacités, où je crois que je peux le faire.
Et puis sinon, il y a un domaine plus personnel et intime, mais qui est plus récent par contre, je pense. Qui est sur la sexualité, sur ma sexualité, que ce soit lié à mon partenaire ou pas, hein. D'ailleurs c'est pas forcément parce que j'ai un partenaire ou parce que j'en ai pas que j'ai des doutes ou pas, donc c'est vraiment des doutes personnels en plus, pas que à deux quoi.
Dans les relations humaines de type amoureuse, ça c'est vraiment un truc sur lequel dans une relation hétérosexuelle en fait, je me remets tout le temps en question sur est-ce que c'est de ma faute s'il se passe quoi que ce soit dans la relation, est-ce que c'est de ma faute si... Est-ce que je dois me remettre en question? En fait, c'est ça qui m'interpelle moi en ce moment. Est-ce que je dois me remettre en question systématiquement quand il y a une situation qui dérape? Je me dis toujours systématiquement d'abord que c'est de ma faute avant de me dire que c'est peut-être la faute de la personne en face, en fait.
Et qu'est-ce que ce serait pour toi l'autokill ?
Le sentiment de m'enfoncer toute seule quand peut-être la situation autour de moi elle est très bien comme elle est, mais que pour la peur de ne pas bien faire ou pour la peur de ne pas être acceptée, arriver à dénigrer moi-même en fait. Et je pense que j'ai fait énormément d'autokill quand j'étais jeune, quand j'étais ado, et que j'étais un manque, j'étais un manque fou de, d'amour et d'attention. Je pense que c'était lié au fait que mon père, il n'était pas du tout là, il n'était pas présent. Quand il était présent, il n'était pas en présence positive. Et du coup, je sais que j'ai cherché cette affection-là, par exemple, de façon sexuelle avec les hommes. Et ça, pour moi, c'était une forme d'autokill parce que j'étais pas prête à accepter qu'il y avait un manque, que c'était pas moi qui devais aller le remplir, en fait. C'était pas moi qui devais aller chercher cet amour partout, dans quelle que soit la condition, pour être acceptée comme individu, tu vois. En fait, je prenais pas en considération moi-même.
Alors moi, je le définis plutôt comme quelque chose autour de la culpabilité et de la légitimité. Peut-être pas parce que... Enfin, peut-être justement parce que j'ai pas vraiment conscience de me faire du mal, mais que je me dis souvent que je suis pas légitime à parler ou à dire ce que je pense vraiment. Et en même temps, c'est une forme de culpabilisation permanente, quoi. Pour moi, l'autokill, c'est ça, c'est se culpabiliser tout le temps. Et en fait, c'est étonnant, mais... Encore une fois, c'est un truc qui me fait écho par rapport à ce que vit ma maman. Et j'ai mis du temps à me dire que bah, moi aussi, en fait, je suis dans la même situation. Et qu'en fait, peut-être même toutes les meufs, elles sont dans cette situation d'autokill. Et voilà. mais c'est rigolo de comparer tout le temps à la génération d'au-dessus. Enfin, je sais pas si c'est commun à beaucoup de personnes. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce que je fais systématiquement dès qu'on parle de féminisme. Et de me dire, ah ouais, mais ma mère, elle est carrément là-dedans et tout. Et en fait... Bah ouais, mais moi aussi. Et c'est pas quand on change de génération qu'on sort de ça, en fait, puisqu'on n'a pas vraiment évolué sur le sujet, je pense pas, de manière générale.
C'est de se mettre en difficulté, de ne pas s'écouter, justement. Du coup, je repense à la relation que j'ai eue. Mon premier instinct, quand j'ai vu cette personne-là, je me suis dit, non, faut pas que j'y aille, il est dangereux. Alors que je lui avais pas parlé du tout. Hein. Sauf que bah, j'y suis allée. Toutes mes blessures du passé qui sont encore là et que je rejoue des choses à travers des schémas, en fait, et que du coup bah là au début t'es un peu aveugle de la situation, après tu t'accommodes, après tu te dis en fait là il y a des trucs qui vont pas. Après je l'ai quitté, j'ai réussi à partir, mais voilà, c'est des genres de choses. Bon, si j'avais écouté mon grand instinct sur le moment, et ben j'arrive. J'aurais tourné les talons, ouais. Autokill, se faire mal aussi. Ouais. Bah, je somatise beaucoup, donc je pense que je fais mal à mon corps des fois. Ouais. Ouais. Avec cette angoisse là, du coup, qui est difficile à contenir des fois, quoi.
En fait, j'ai un peu du mal à saisir le. Enfin, je vois le concept, mais comme j'ai beaucoup d'affection en fait pour l'autokill, puisque pendant longtemps. J'ai lu Don Quichotte et j'ai été Don Quichotte. Et j'ai aimé être Don Quichotte parce que c'est aussi une manière d'être dans l'échec et en même temps de se raconter des histoires dans cet échec. Et je crois qu'en fait, se raconter ces histoires dans cet échec, c'est une bonne solution. Et donc moi, je trouve que l'autokill, quand on a conscience que on met en place qu'on est dans un système un peu d'auto... j'ai une copine qui disait « C'est bon, tu arrêtes d'être kamikaze. » Et du coup, je suis devenue Pérénissima et j'ai mis ma cape de Pérénissima. Eh bien, je me suis dit que vraiment ce truc de comprendre l'échec, mais aussi comme quelque chose de... Voilà, ça raconte quelque chose de nous qui n'est pas forcément négatif, en fait. Parce qu'il suffit de construire un récit. Moi, je crois que je suis beaucoup pour se raconter des histoires sur qui on est, comment on est, et comment on se peut raconter, se raconter soi-même, en fait, ça aide aussi à se construire. Et du coup, à transformer ce qui est de la forme de l'échec, en fait, en une histoire positive, en fait.
Voilà. Quand on a trop raisonné, trop sédentarisé des idées, des opinions... on s'est attaché, on veut ressembler,
où on veut ressembler à telle personne parce que ça fera plaisir à maman, à papa, ou dans la vie sociale, on veut être ci, se marier, avoir des enfants, parce que c'est le modèle du bonheur, et puis voilà, on s'accroche à des illusions, on s'accroche, puis c'est même pas des illusions, c'est carrément, pour nous, c'est une certitude, quoi. On n'est même pas dans la capacité de voir que c'est une illusion. Là, je le dis parce que... Mais quand c'est vraiment des conceptions comme ça, fixées, quoi. Et après, ben, c'est bien de douter parce que, justement, ça vient dévisser ces conceptions. Mais voilà, dévisser, ça veut dire déstabiliser. Ça veut dire aussi accepter de faire des dépressions. Tu peux tout avoir, mais pas être libre parce que tu es encore pris par... ta tête de... C'est ta tête qui devient ta prison, quoi, tu vois, c'est... Tu dis, attends, je me suis libérée de ça, j'ai plus personne pour me commander, mais tu peux être toi-même ton propre persécuteur, quoi. S'auto-tuer, autodestruction, c'est une force autant que l'autoconstruction, quoi. Parce que son opposé, c'est auto-vivre, quoi, auto-construire, quoi. Il y a seulement à la réorienter, mais la force est là, hein, parce que c'est pas rien, hein, il y a toute une reconstruction du regard de soi-même, tu vois, il y a vraiment comment on s'est construit par rapport aux autres, et ouais, c'est une manière aussi de se suicider inconsciemment, quoi. Ouais, c'est une forme de suicide. Si je devais parler à cette partie de moi-même qui s'auto-détruit, je lui dirais... Bah écoute, je comprends, tu t'es construit comme ça, mais je jugerai pas en fait, je me jugerai pas, je me suis dit, bah, c'est tout ce que t'as pu avoir comme moyen pour dire que t'existes. Je sais que cette partie de moi-même ne voudrait pas que je la regarde, parce qu'il y a une honte, et puis elle a pas envie qu'on la regarde, et puis c'est pas beau, et puis il y a une pudeur, et puis... Mais je la regarderai avec pudeur et me dire, ben voilà, je serai en communion avec elle et on se foutra la paix en fait. Et une fois, j'avais rêvé d'un enfant blessé, et cet enfant blessé, c'était moi qui le faisais du mal. Mmh. Et quand je l'ai regardé avec un regard moral, et ben il s'est agrippé sur moi comme un chat enragé. Il voulait pas que je regarde. Il voulait pas que je regarde ses blessures. Alors ce que j'ai fait, je me suis dit, oh là, je l'ai regardé comme mais qu'est-ce qui t'arrive, mais... Et je me suis dit, faut pas que je le regarde comme ça, donc je le regardais avec pudeur. Et en fait, on a communié ensemble. Et je suis devenue ma meilleure amie.
D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors ensemble, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme, je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, aucune pomme à l'inventaire, qui l'a volé, c'est toi, Adam. Et veut savoir sa fanfaronne, il dit, mais non, papa, c'est moi. Et d'ailleurs, elle était pas bonne, faudra laisser mûrir, je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève, si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé. Pétrit ses bols et soupières, faisait rien à la journée. Pour les enfants ça se complique, au premier fils il est content. Et quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule, il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la fontaine. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon. Il faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses. Bah, ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis, non mais, qu'est-ce qu'il s'imagine. J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas.
Mais c'est quoi un moment d'auto-kill?
Le fait que lorsque tu foires quelque chose, la première chose que tu te dises c'est « Putain, je suis une merde » et que direct tu paniques.
Ça, c'est de l'auto-kill.
Le fait que lorsque tu as une demande importante pour toi à faire à un autre être humain, ça te prend un temps dingue pour te lancer si tant est que tu te lances. Bah oui, dans ta tête, tu te dis que tu vas être obligé de te battre pour être écouté, pour être pris au sérieux, pour être entendu, puis pour obtenir ce que tu souhaites. Et puis, ce que tu demandes, c'est peut-être pas si important, finalement. Tu te dis que tu n'es pas vraiment légitime. Oui, rappelle-toi, tu compliques toujours tout.
Ça, c'est de l'autokill.
Le fait que la dernière fois que tu t'es dit « Je rêve de monter une émission de radio féministe », tu aies pu te dire un truc genre « Meuf, mais t'as jamais fait de radio, tu te la racontes, là, faut redescendre. La radio, ça s'improvise pas, hein, faut taffer. Sur quoi tu vas taffer ?» Tu crois que les autres meufs, elles sont aussi à la ramasse que toi? Tu crois qu'elles en ont quelque chose à foutre de tes questions existentielles sur l'autokill? Ouais. Et qu'au lieu d'en parler aux copines, bah, je me suis calée devant Grey's Anatomy, saison 14.
Ça, c'est un moment d'autokill.
Et l'inconscient a un mode furtif redoutablement efficace. On sent qu'un truc cloche, mais de là à pouvoir se dire...
Tiens, c'est drôle. Des fois, je suis quand même ma plus grande ennemie. Non, je te jure, je m'autokill beaucoup. Je ne sais pas d'où ça vient... Mais je compte bien le découvrir et y mettre fin.
Eh ben, il y a souvent un gouffre.
Du coup, la grande question qui se pose à nous, c'est comment il se fait le travail de prise de conscience de mon propre asservissement par moi-même.
Pour nous, la première étape de l'émancipation, c'est de tilter que la responsabilité de notre galère avec nous-mêmes n'est pas intime, mais sociale.
Par contre, ce que nous proposons est un boulot intime et politique, porté par le pouvoir commun des femmes. Et pour cela, je vous propose quelques pistes.
T'es carrément fasciste avec toi-même et avec les autres, même si c'est que dans ta tête.
L'exigence que l'on a vis-à-vis de soi-même n'est pas toujours simple à saisir. Inconscient oblige. Et partir de celle que j'ai vis-à-vis des autres peut être éclairant, les humains étant plutôt projectifs.
Tendance à attribuer à l'autre des qualités positives ou négatives que l'on ne peut pas pour le moment penser comme étant les nôtres.
Ainsi, la manière de juger l'autre est une bonne façon de comprendre quelque chose du rapport inconscient que l'on entretient avec soi.
Si je suis dure et exigeante avec l'autre, c'est sans doute que je le suis avec moi. Si j'en appelle à l'amour des autres, c'est sans doute que je ne parviens pas encore à trouver le mien pour moi-même. Et ce qui se déploie dans nos relations les plus intimes est bien souvent le plus révélateur.
Autre piste.
Lorsque tu as une idée et que rapidement tu te trouves plein de bonnes raisons pour finir par te dire que non... En fait, elle est un peu pourrie, cette idée, pas très réalisable, un peu naïve.
Si je suis ma propre alliée, je n'attaque pas mes propres idées et désirs. Je travaille à élaborer une stratégie pour qu'ils puissent advenir et tenter de les réaliser.
En revanche, si je suis en mode auto-kill, je remets spontanément en question la qualité, la pertinence de mes idées et désirs, ce qui rend leur réalisation beaucoup plus compliquée.
Et de là découle le point suivant.
T'es trop en difficulté pour choisir.
Eh ben oui. Quand je passe mon temps à me dire que mes idées c'est de la merde, faire des choix s'avère assez complexe.
T'es toujours crevée, mais tu sais pas pourquoi.
Eh bah oui, s'autoquiller à longueur de temps et tenter d'y résister, c'est épuisant.
Tu te sens jamais plus puissante que quand ton mec, ta meuf, tes potes, tes parents te disent que ce que tu fais, ça déchire.
L'importance que j'accorde au regard des autres et à leur aval, même imaginaire, eh bien, est inversement proportionnelle à celle que j'accorde à moi-même. Et le regard des hommes a une place toute particulière, et plus encore, pour les femmes hétéros.
Donc le plan d'attaque, c'est s'astreindre à travailler avec férocité et courage pour intercepter le plus de fois possible ces mouvements d'autokillance en nous et faire le ménage dans nos têtes.
Je fais le ménage dans ma tête.
Tu fais le ménage dans ta tête.
Nous faisons le ménage dans nos têtes.
Faire le ménage dans nos têtes. C'est une bonne idée. Mais comment ? Avec quels outils ? Alors, quand on est parti à la pêche aux infos, on a voulu savoir comment les autres meufs, elles ont fait et où font encore pour se dégager. Et le mieux, ben, c'est qu'elles vous le disent elles-mêmes.
Est-ce que tu dirais que tu es parvenue à dépasser tes doutes et à t'affirmer dans certaines de ces situations ?
Le doute, moi, je le compare à une balance avec deux plateaux. Et lorsque le doute surgit, il faut remplir un plateau. Le faire basculer par des arguments et ensuite bien accepter la bascule. Donc, être certaine de son choix et de là, de s'affirmer.
J'ai fait appel à mes sentiments. J'essaie de faire un mélange de rationalité et sentiments. Dans la vie des couples, par exemple, j'ai souvent des discussions avec mon compagnon. Et quand je ne me sens pas reconnue, par exemple, dans qu'est-ce que j'exprime, qu'est-ce que je dis, j'essaie du coup de regarder dans mes émotions, en fait, et réussir à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça fait changer l'écoute aussi dans l'autre, dans la personne que je suis devant. Et à relativiser aussi, à dire que je n'ai pas raison et l'autre personne n'a pas raison, mais que tous les deux ont raison, en fait. Et ça, ça m'aide à m'affirmer aussi.
Alors, ouais, carrément. Mais... Et encore une fois, je me dis, mais arrête, tu vas en faire trop, arrête de te la péter ou quoi, mais peut-être que non, j'ai le droit de me sentir légitime sur ça, mais c'est dès que je parle de politique, dès que je parle de sujets sur lesquels je suis plus sûre de moi, et où je suis plus sûre de moi parce que j'ai lu des choses par rapport à ça, et que, du coup ça légitime un peu ma pensée, et du coup j'appuie les propos, mes propos avec les propos des autres, et c'est beaucoup plus rassurant, et alors là, il n'y a pas de souci, je sais que j'ai raison, et... Ou en tout cas, je me persuade que j'ai raison, j'ai peut-être pas raison, mais quand je parle de politique avec les gens, d'écologie, de communisme, quoi, ben là, je suis sûre de moi, et là, j'arrive à avoir de l'assurance, en tout cas, et je vois que j'arrive à convaincre les gens. Et ça, c'est fort aussi, ça enlève un peu le doute, et j'arrive mieux à m'affirmer de nouveau.
Eh ben, je pense que si on prend l'intime de ma sexualité, je pense que je galère encore un peu sur ça. Après, c'est quand même paisible, parce que je trouve des espaces pour en parler, avec notamment avec mes copines. Je pense que c'est ça qui m'apporte le plus. De les partager, de voir qu'ils sont, que je suis pas isolée à en avoir, enfin voilà. Et puis j'en parle avec mon compagnon, donc ça aussi je pense que ça nous aide aussi à nous rencontrer et puis à aborder ces questions-là. Sur mes relations familiales, j'ai réussi à trouver une bonne distance qui fait que ils m'envahissent moins. Les doutes que je peux avoir sur la place que j'ai dans ma famille, sur la femme que je suis au sein de ma famille, voilà. Mais je pense qu'il y en aura toujours avec eux. Mais en tout cas, ils sont moins gênants.
J'ai travaillé pas mal là-dessus, sans résultat, pendant de nombreuses années. Et là, effectivement, dans ces cas-là, on nuit à soi-même parce qu'on se sent... On ne se sent pas à la hauteur, on se sent différent, on se sent minable même des fois. Et donc là, on se fait vraiment mal. Et puis, j'ai ouvert les yeux sur d'autres choses, sur des gens plus différents de moi. Et puis, il s'est passé quelque chose, peut-être avec le yoga aussi. Les rencontres qu'on fait, pas le yoga peut-être en lui-même, mais les rencontres qu'on fait dans ces milieux-là, et je me suis sentie plus en communion. J'ai compris qu'en fait, il y a des gens avec qui ce sera toujours mauvais et des gens avec qui on peut avoir des bonnes relations. Et ce qui fait que je suis redevenue un peu amie avec moi-même et maintenant je suis moins angoissée à ce niveau.
Moi, j'ai fait 10 ans de psychanalyse. déjà. Et je sais pas si c'est vraiment, ça m'a vraiment permis de dépasser les doutes, mais aussi je pense que j'ai accepté que je puisse avoir des doutes et que c'était pas, que ce n'était que des doutes et que c'était pas la vérité. Enfin, je pense qu'aujourd'hui je doute beaucoup moins aussi parce que je suis plus sûre de moi. Enfin, et que je me dis que ce que je peux apporter aux autres et ce que je peux vivre est important. Et du coup, comment j'arrive à dépasser mes doutes et à les affirmer, c'est plus une posture générale, en fait. C'est un changement de positionnement par rapport à moi, par rapport aux autres. Je pense que mon travail m'aide beaucoup à m'affirmer.
Sur les relations amoureuses et amicales, je pense que ils seront toujours un peu... ils seront toujours là, il y aura toujours des moments où je doute des relations que j'ai ou de la place que j'ai dans cette relation, mais ça c'est pas ça, je les vois pas comme des choses gênantes, peut-être un peu parfois dans mes relations amoureuses, mais c'est pas embêtant, c'est pas difficile en tout cas. Donc je pense que du coup ça m'a permis, enfin si ça n'est plus des doutes qui sont difficiles, ça m'a permis de m'affirmer.
Qu'est-ce que ce serait pour toi être une suffisamment bonne alliée pour toi-même ?
Eh bien, une bonne alliée pour moi, c'est de ne pas se laisser récupérer par certains, être certaine de ses décisions, qui sont aussi valables justement que celles des autres, être sûre de soi.
C'est avoir une bonne image de soi, voilà, une bonne image de soi pour pas se sentir ridicule, être satisfait par exemple quand on a été à une réunion ou à une journée par exemple d'activité avec d'autres personnes, avoir par exemple réussi à avoir des discussions avec des gens qu'on n'avait jamais vus, dans les rapports humains, que ça se passe mieux, que c'est beaucoup plus fluide, voilà, on revient avec la satisfaction et ça vraiment, ça fait beaucoup de bien justement pour l'image de soi. On se dit, voilà, je suis contente aujourd'hui, j'ai parlé avec une telle, j'ai rencontré quelqu'un de super, j'ai eu des bons retours. Et ça, c'est très, très agréable, quoi, de se dire que finalement, on a réussi d'abord à dépasser ces blocages. Et puis, on comprend aussi que peut-être qu'on s'était trompé de direction à un moment donné, en essayant de se forcer, et que les choses doivent être, en fait, beaucoup plus... simple et naturel, quoi, et que ça passe beaucoup mieux.
Je pense que ce serait ne plus me juger, en fait, c'est-à-dire que ces doutes-là, les doutes que j'ai par rapport à moi ou par rapport à des questions sur ma vie ou sur comment je suis, comment je réagis, enfin, toutes ces questions que je peux me poser, soient plus des questions qui déjà me mettent en difficulté parce que j'ai pas de réponse. Donc, c'est-à-dire d'accepter que parfois j'ai pas les réponses, de lâcher prise, de se dire que le doute est plutôt aide à construire et à réfléchir que je pense qu'il y a quelques années, c'était impossible pour moi de douter. C'était trop insécurisant. Donc, j'avais des positions qui n'étaient pas toujours les bonnes, hein, mais en tout cas, moi, j'avais besoin d'avoir des certitudes, j'avais besoin de faire des choix, de poser des choses, et le doute n'était pas trop imaginable, donc je pense que j'étais pas une bonne alliée à ce moment-là, parce que je me mettais la pression de toujours devoir maîtriser, savoir. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt ça, être une bonne alliée, c'est de pas se mettre la pression et plutôt d'accepter le doute, les doutes, et plutôt de les trouver constructifs que j'arrive pas à trouver le mot depuis tout à l'heure, mais un peu bloquant, quoi. Un peu, il t'empêche de penser, il t'empêche d'avancer, il te fige, voilà, quelque chose qui te figerait. Et voilà, je pense que ça, ce serait pas une bonne chose pour moi, avec moi.
Peut-être prendre plus de temps à réfléchir sur la situation avant de faire des choses que je vais regretter après, comme quand je m'écrase face à quelqu'un. Peut-être prendre un peu plus de temps ouais, pour appréhender la situation, me dire, attends, est-ce que là, t'es pas juste en train de te dire que c'est de ta faute, encore une fois, parce que tu le fais souvent, et du coup, logiquement, là, tu le fais. Peut-être prendre plus le temps de m'affirmer.
C'est une question que je trouve un petit peu difficile. Un peu du mal à comprendre ce dédoublement de moi-même. Mais je crois que je suis une bonne alliée pour moi-même quand je pose mes limites. Quand je parviens à poser mes limites, je trouve que je me trouve super. Je me trouve géniale.
C'est marrant, mais il y a un côté un peu bas les couilles, genre quand on arrive à dépasser ce truc-là, on se dit il faut forcément entendre le fait que peut-être tu vas faire du mal à quelqu'un si tu dis foncièrement ce que tu penses. Et du coup, dépasser ce truc-là, pour moi, ce serait vraiment la solution de dire tant pis si je blesse les gens, tant pis si ça fait pas du bien à la personne que j'ai en face de moi, mais moi j'ai besoin de le dire, il faut que je le sorte. Et du coup, pour moi, ce serait peut-être ça, en fait, d'être peut-être pas une bonne alliée pour moi-même, parce que je pense que pour l'instant, j'y arriverai pas, mais en tout cas, dépasser l'autokill, quoi.
Je pense avoir beaucoup d'amour pour quel que soit le résultat de ma vie, en fait. Avoir beaucoup plus d'amour, de bienveillance envers la direction que je prends, les erreurs que je fais. Je suis très jugeante envers moi-même. Et je pense que du coup, c'est lié aussi au fait que des fois, je ne me sens pas à la hauteur des situations, parce que je me juge tout le temps, et du coup c'est sûr qu'il y a des fois où je suis la première ennemie de moi-même, et je suis beaucoup plus tolérant avec les autres qu'avec moi. Du coup, si je voudrais être un bon allié pour moi-même, je devrais faire probablement séminaire d'une semaine, méditation contemplative sur combien je suis belle, je suis forte. Oui.
En entendant les témoignages, on se rend compte que toutes ces femmes, elles sont parties à la recherche de trucs pour se faire plus confiance, elles en ont trouvé, qu'elles ont mis en place des stratégies pour mieux se traiter, pour se sentir plus forte. Et il y a quelque chose de carrément inspirant d'entendre ces témoignages. Est-ce qu'il y a des choses, vous, qui vous ont particulièrement touchées ou particulièrement marquées dans ce que les meufs racontent ?
Bah, il y a beaucoup de choses, moi, je trouve, qui sont dites de façon assez variée. Et moi, j'aime bien cette idée de s'accorder de l'amour et de la bienveillance, qui est dit plusieurs fois de manière différente. Voilà, et de savoir poser ses limites. Il y a aussi cette idée de parler de doute paisible ou doute figé, et de faire la différence entre les deux, et de vivre avec le doute, en fait, que c'est quelque chose qui peut faire partie de la vie plutôt que d'être dans des certitudes, mais avancer avec ce doute. Moi, ces choses-là m'ont pas mal parlé. Alors, par contre, moi, je trouve... je ne sais plus qui parlait de poser ses limites comme ça. Et dans mon vécu, ce serait plus l'inverse, en fait. Je sais qu'il y a quelqu'un qui pose facilement ses limites, je pense. Par contre, ce serait plus à l'inverse, de prendre sa place, et la question de la légitimité qui me renvoie à ce côté de sois sage, sois gentille, reste une petite fille sage qui reste dans sa chambre. Et ouais, moi, c'est plus là-dessus que j'ai encore un combat à faire, en fait, sur... avec toute la bienveillance que je m'accordais. Et ces histoires de bienveillance, ouais, c'est un truc. Je pense qu'il se développe. J'ai l'impression que c'est un truc qui se développe pas assez dans beaucoup de milieux, et cette histoire de bienveillance qui qui se développe, une culture de la bienveillance. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a aidée, que j'ai découvert assez tard, en fait. Et voilà, notamment, voilà, qui fait partie aussi de ces tripes de méditation, etc., qui peuvent permettre aussi de mieux se connaître soi-même, en fait, de savoir où on en est dans notre vie, etc. Voilà. Et dans les choses qui m'ont apporté personnellement dans ma vie, moi, c'est aussi de se rendre compte qu'en fait, il y a d'autres meufs qui partagent des galères qui sont forcément pas les mêmes parce qu'on a des vécus différents, mais en fait, il y a des équivalences et de se rendre compte qu'en fait, bah ouais, en fait, l'autre est en fait le même, enfin pas le même, mais on a des ponts entre nous et que on n'est pas ennemis là-dessus, mais au contraire, on a à partager.
On rame ensemble.
Ramons ensemble.
Dans la même galère.
Dans la même galère, ouais.
On fait de la métaphore douce.
Et bien sûr, un des gros trucs qui m'a apporté aussi individuellement, c'est les lectures féministes. Alors là, j'en ai pas en tête, mais je sais qu'il y en a un paquet qui m'ont fait vachement de bien sur cette question d'auto-oppression, quoi. Ouais. Ouais, bien plus que plein d'autres trucs, en fait. Voilà, voilà ce que je dirais.
Ouais, moi je te rejoins vraiment sur la dimension féministe, l'environnement féministe, rencontrer des meufs féministes qui ont déjà eu des réflexions, qui ont déjà travaillé des éléments de l'environnement extérieur, comment il peut nous opprimer, comment il peut être oppressant. Pour moi, ça m'a fait faire un pas en avant, mais plusieurs pas en avant très rapidement. Parce que elles ont pensé des trucs, elles ont mis des mots là où moi peut-être j'arrivais pas à les mettre. Et je crois aussi que ça a été un des éléments très forts de vouloir travailler sur cette question de l'autokill, parce que quelqu'un avait mis des mots là où on en avait pas encore peut-être mis pour le moment. Et sur ce que disent les meufs aussi dans les interviews, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la notion d'acceptation. Juste, voilà. Accepter qu'on puisse douter, qu'on puisse pas être toujours dans l'hyper-contrôle de tout, que surtout, on voit les éléments, les domaines souvent qui sont cités, c'est quand il y a des interactions sociales avec d'autres personnes, dans le milieu professionnel, le milieu amical, le milieu amoureux, parce que, en fait, de fait, on est dans des relations où il y a des forces qui se rencontrent et que, du coup, faut apprendre à faire avec ces forces. Et accepter qu'on puisse pas savoir ce qui va se passer demain, comment va se passer tel ou tel échange, telle ou telle relation, et que, en fait, c'est pas pour autant qu'on peut pas par la suite revenir dessus, y réfléchir. Enfin, et pas tout de suite se culpabiliser, s'auto-killer en se disant qu'on a été monstrueuse d'avoir dit ça, et que, en fait, voilà, on sait même pas encore complètement comment la personne en face l'a pris. Et du coup, accepter juste qu'il y a du doute, avoir des certitudes. Moi, j'ai longtemps cherché à avoir des certitudes. Ben, en écoutant les autres meufs, ça a l'air quand même hyper compliqué d'avoir des certitudes, et peut-être que c'est un peu comme Don Quichotte, c'est peut-être se battre contre des moulins à vent que je cherchais à avoir des certitudes.
C'est ce que dit une des interviewées que je trouve intéressant aussi sur le parcours qu'elle a dû faire aussi, de partir de, en fait, elle dit que le doute est même pas imaginable, en fait, et il y a des impossibles, en fait, et qu'il y a tout un travail de dire, ah ouais, mais en fait... ça, c'est peut-être pas si évident que ça, et voilà.
Ouais, moi, j'ai été très sensible à ce que tu énonces, Fred, un peu plus tôt, sur la question de comment on pose ses limites. Ça, pour moi, ça a été vraiment un travail hyper soutenant de « je n'ai pas à être gentille tout le temps, je n'ai pas à satisfaire tout le monde, je n'ai pas à prendre soin de tout le monde » et qu'il y a des moments, je suis légitime à dire « bah non, ça, je peux pas, non, ça, je souhaite pas le vivre ». Et que c'est Perrine qui énonce ce truc-là en disant « quand je parviens à poser mes limites, je me trouve géniale ». J'adore vraiment cette phrase, me parle énormément, je trouve ça hyper signifiant. Cette question des limites est importante, je trouve aussi.
Le but est de te réapproprier une pensée toujours un peu plus dépolluée des injonctions culturelles genrées qui la minent, l'entravent, l'emprisonnent, la menacent.
Le but, c'est de s'initier, puis de s'approprier une réelle liberté de pensée.
Et surtout, on s'en cause entre meufs.
On se pose nos questions.
On se file nos lectures.
On pense à plusieurs.
On se soutient.
On s'encourage.
On prend appui sur le monde commun des femmes.
On nourrit nos consciences collectives.
L'émancipation, il n'y a rien de plus bon.
En fait, ce qu'on voulait vous partager, vraiment, très fortement, dans cette idée d'émission, c'était le fait que quand tu galères, tu n'es pas l'unique responsable de ta galère. C'est pas toi qui es pourri, c'est pas forcément toi qui fais pas d'efforts, c'est pas toi qui fais pas ce qu'il faut pour être ce que les autres demandent de toi. Tu as affaire, mine de rien, à un environnement hostile et asservissant. Alors il n'y a pas de secret. C'est un gros chantier de travailler sur ses représentations, ses comportements, son regard sur soi, ses ressentis. Mais le truc important, c'est que t'es pas obligé de le faire toute seule, ce travail-là.
Et ben voilà, on arrive à la fin de notre émission. Et donc on va remercier Béné et Tiffany pour la technique.
Pour l'animation et la création, on remercie Fred, Bertie et Adèle.
Et merci aux personnes interviewées, Françoise, Perrine, Julia, Marie-France, Tiffany, Sophie, Khadija et Justine.
Et pour la prochaine émission, on va se causer de non-mixité.
J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisante. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop vivantes. Contre les murs d'une cellule glauque ou sur le dos d'une étoile filante, je suis partie loin de chez moi où ma que j'ai sorti en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant les clips. Je sens bruit de sauvetage, je nage dans l'immensité de la life. Bande sèche sous message que j'oublie pas de sonner mes palabres. Si je suis pas là, c'est que je me balade. Veuillez silo sur le champ de bataille. Contre les mythos et leurs plans de bâtard. Moi aussi, Babylone m'a rendu malade. J'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts. J'ai osé regarder.